Donc nous allons avancer et donc passer au second sujet, donc DeanSeek et Talab. Alors deux mots qu'on va évidemment expliciter. Donc dans un premier temps, on va essayer de revenir sur un petit peu sur un historique de, on va dire, de la place de l'informatique, l'administration électronique au sein de l'État français et d'expliquer ce que font ces deux structures, donc la DINSIC et la mission Etalab. Donc je rappelle que nous sommes en compagnie donc de Laurent Joubert et de Mathilde Bras. Alors Laurent, est-ce que tu veux commencer par nous faire un petit rappel historique de la situation et nous expliquer ce qu'est la DINSIC?
Donc la DINSIC, c'est la DSI groupe de l'État. Ça veut dire que donc la direction des systèmes d'information, plutôt une direction des systèmes d'information stratégique et qui anime les différentes directions des systèmes d'information des ministères. Donc on s'occupe de l'administration centrale et en plus d'interagir avec les ministères sur tous les systèmes d'information, on est aussi en lien avec toutes les autres agences interministérielles. Comme l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la direction du budget, la direction des achats de l'État, ou également la DGAFP, qui est en fait la DRH de l'État,
Un
pour évoquer
DRH.
la direction des ressources humaines, donc pour tous les aspects numériques et informatiques.
D'accord. Et est-ce que c'est la première structure qui existe sur ce sujet?
Donc la direction, la DINSIC a été créée en 2011. Elle est donc assez récente et elle est passée par différentes étapes. En 2014, il y a eu la création du SI unique de l'État. Donc ça, c'est une étape importante parce
Alors,
que
du SNI, du système d'information
du système
unique.
d'information unique de l'État, parce que jusque-là, on avait des systèmes d'information ministériels. À partir de 2014, donc il y a cette création du système d'information unique de l'État qui a été rattaché sous l'autorité du Premier ministre. Et puis en 2015, on a rajouté un N à DISIC, donc, qui est devenu DINSIC pour numérique. Et le N a été aussi le rattachement d'Etalab et de l'incubateur de start-up d'État, donc, qui s'appelle beta.gouv.fr. Donc depuis, nous sommes cette entité et nous nous occupons non plus que des systèmes d'information, mais aussi du numérique globalement pour les administrations centrales.
D'accord. Donc, avant de passer la parole à Mathilde, justement pour la partie mission Etalab, j'aurais rappelé quand même qu'il y a un historique assez fort en fait des agences de l'État autour, on va dire, de l'informatique, etc. Parce que la première agence qui avait été créée, alors il y a eu des évolutions aujourd'hui et c'est intéressant de le voir, c'est en 98, c'est la mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration. Donc c'est la MTIC pour ceux qui les personnes qui s'en souviennent. À l'époque, je crois me souvenir que son directeur était Jean-Pierre Dardérolle. Et ensuite, il y a un certain nombre de structures qui se sont succédées. Donc il y a eu l'agence pour le développement de l'administration électronique, il y a eu la direction générale de la modernisation de l'État. Il y a eu l'ATICA. Bon, l'ATICA, j'avoue, j'ai un trou de mémoire sur ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, c'est pas récent, c'est une suite logique, avec une évolution effectivement qui semble importante. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le système d'information de l'État, c'est d'essayer du rôle de plus en plus central finalement de cette agence par rapport aux autres agences ou de mémoire. Le rôle notamment avec les deux autres directions des systèmes d'information des ministères était plus souple, ou en tout cas, l'agence avait moins de pouvoir, entre guillemets. Moins de rôle par rapport à ces directions de système d'information de chaque ministère.
Là, c'était plus à côté. Là, avec la DISIC en 2011, il y a bien la création de cette DSI Group. On pourrait résumer trois missions. On a une mission d'autorité. Donc ça, c'est assez important. On peut édicter un peu des règles auprès des autres DSI ministériels. On a un rôle d'accompagnement pour permettre justement d'accompagner les réformes et d'être capable de mener des grands projets informatiques. Et on a un rôle de ressource où on est là aussi pour proposer concrètement des aides. Donc ça, c'est important.
D'accord. Alors tu as parlé de la mission Etalab. Donc Mathilde Bras, est-ce que tu peux nous présenter la mission Etalab, son rôle et puis ses objectifs?
Bien sûr. Donc la mission Etalab, comme l'a rappelé Laurent, elle a rejoint ou elle a été intégrée dans la DINSIC en 2015, mais elle a également été créée en 2011. Et elle était à l'époque directement placée sous l'autorité du Premier ministre. Et c'est un peu comme la DINSIC, ses fonctions ont évolué au cours du temps. À l'origine, Etalab, sa première mission cœur était de favoriser l'ouverture des données publiques. Vu qu'en 2008, on avait eu la conférence de Sébastopol sur l'ouverture des données publiques au niveau international, il a fallu ensuite pouvoir développer cette politique d'open data, excusez-moi de l'anglais, on l'utilise beaucoup, donc cette politique d'open data au niveau national. Donc en effet, le premier développement voilà, de la mission Etalab, ça a été vraiment de mettre en place cette politique d'open data qui a commencé finalement par beaucoup de pédagogie et la construction de la plateforme data.gouv.fr, qui est la plateforme interministérielle qui recense l'ensemble des données produites et circulées autour de au cœur de l'administration. Et au cours du temps, via les rapprochements avec la DIZIC, et alors même qu'on était quand même en France et en Europe en train de voir le numérique évoluer et rentrer de plus en plus dans notre quotidien, on a trouvé utile et bénéfique d'intégrer Etalab dans la DINZIC. Et donc au cours de cette intégration, donc depuis l'année 2015, plusieurs missions ont été rajoutées au portefeuille d'Etalab afin d'incarner également les trois grosses missions de la DINZIC. Donc l'autorité, on a participé de manière très active à la rédaction de la loi pour une République numérique.
De 2016,
exactement. Et maintenant, nous sommes en charge d'accompagner les ministères à appliquer cette nouvelle réglementation. Donc, on accompagne finalement également les ministères autour de la mise en œuvre de la loi pour une République numérique. On a intégré la fonction de l'administration générale des données, qui concerne plus non plus l'ouverture des données publiques, mais la circulation des données entre les administrations, ce qui est cœur lorsqu'il faut moderniser des services publics. On a également pris des fonctions autour de l'innovation, puisqu'en parallèle des missions de l'incubateur des startups d'État, on a créé le programme Entrepreneurs d'intérêt général. Et donc enfin, pour terminer, on est également pourvoyeur de ressources et d'outils, puisqu'en plus de la plateforme data.gouv.fr, on met en place des produits, des micro-petits outils qui permettent de faciliter l'exploitation des données et la mise en place de services.
D'accord.
Peut-être pour compléter, il y a un point qui est important parce qu'il y a beaucoup un peu de fausses idées sur la DINZIC aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est un peu plus d'une centaine.
Justement, ça tombait bien. J'avais une question sur les effectifs actuels, les effectifs à venir. Donc une centaine actuellement.
Un peu plus d'une centaine. On doit être précisément à 140 là. Et donc il faut voir que par rapport aux différentes missions, on est découpé en trois tiers. Il y a un tiers qui concerne le service à compétence nationale du réseau interministériel d'État. Donc ça, c'est un réseau qui est propre pour connecter les différentes administrations entre elles. Il y a un tiers qui regroupe toutes les fonctions, je dirais plus DSI stratégiques, et un tiers qui concerne les effectifs sur la mission Etalab et l'incubateur.
D'accord. Est-ce que tu as une idée, en comparaison par rapport à d'autres structures dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Estonie. Alors c'est peut-être une question PH, si tu ne sais pas, c'est pas grave, hein, c'est... Est-ce que vous avez une idée, tous les deux, du nombre de personnes qui travaillent dans ces structures, par exemple en Estonie ou ailleurs ?
En termes d'échelle, c'est difficile de comparer avec l'Estonie, puisque c'est un pays qui est quand même plus petit.
C'est vrai.
Et le modèle est différent. Donc, j'imagine, mais je ne suis pas du tout sûre de moi, je pense qu'ils sont moins que nous, en effectif.
En fait, on a fait des mesures comme ça avec d'autres pays. Typiquement, si on se compare aux anglo-saxons, avec la partie GDS en Angleterre.
C'est quoi GDS ?
Government Digital Services. C'est aussi l'équivalent de la DINZIC au niveau du Premier ministre.
D'accord.
Ou aux États-Unis, ils sont proportionnellement un peu plus nombreux, mais avec des missions aussi un peu plus larges. Donc, ça peut aller jusqu'à 4-5 fois... la taille de ce que peut être la DINZIC.
D'accord, donc là vous estimez que finalement les équipes DINZIC sont suffisantes peut-être pour établir les missions. Est-ce qu'il faudra encore plus de personnes? Est-ce qu'il y a des prévisions de recrutement dans les années à venir? Parce que finalement l'informatique, le numérique prend de plus en plus part. Est-ce qu'il y a des prévisions tout simplement ou pas du tout?
Alors on n'a pas la connaissance de prévisions très précises. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand on voit l'évolution de la DINZIC depuis 2011... On peut s'imaginer qu'on va s'adapter aussi aux futures évolutions du numérique dans l'administration. Et donc, c'est vrai que quand on voit aussi même les types de recrutements qui sont effectués dans l'administration, pas que dans la DINZIC, on voit bien que de plus en plus de métiers dans l'administration vont avoir trait au numérique et à l'innovation. Mais en tout cas, en termes chiffrés...
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes autour du numérique en général. Que ce soit dans les ministères ou au sein de la DINZIC, il y a effectivement une volonté d'aller promouvoir le numérique. Maintenant, concrètement, où vont se situer les effectifs? Comment est-ce que ça va être réparti au moyen? Il n'y a pas encore de plan. En tout cas, il n'y a pas d'augmentation prévue pour l'instant.
D'accord. Bon, on a une première présentation. Peut-être, est-ce que tu as une question, Étienne? N'hésite pas à le dire parce que.
Je pense que ça sera abordé plus peut-être sur les réflexions d'entrepreneurs d'intérêt général, mais vous parlez beaucoup d'incubateurs, de start-up, d'État. C'est vrai que la notion de start-up est assez, comment dire, politiquement orientée maintenant, ou alors du moins elle est quand même beaucoup utilisée. Je pense que start-up d'État est quand même un objet assez à part, donc je pense que ça peut être intéressant de développer sur cette notion.
Oui, si vous le souhaitez. Donc, start-up d'État, en effet, ça peut paraître un peu antinomique, tout comme entrepreneur d'intérêt général. Et finalement, c'est le but d'avoir créé ces mots-là pour montrer qu'en fait, dans l'État, dans le service public, on pouvait aussi adapter des méthodologies pour débureaucratiser un tout petit peu le service public. Et donc, l'idée d'une start-up d'État, elle est très simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des agents publics qui rencontrent dans leur quotidien et dans l'application de leur mission un certain nombre d'irritants qui font qu'ils n'ont pas le sentiment de mener à bien leur mission. Donc, par exemple, une start-up d'État qui est assez emblématique, qui s'appelle mesaides.gouv.fr, ça vient du ministère des Affaires sociales, qui fait le constat que le taux de non-recours aux aides sociales est très élevé. Et donc, il faut trouver un moyen de faire parvenir à ceux qui le nécessitent les bonnes informations sur les démarches à effectuer pour recevoir ces aides. Et donc, à partir de cet irritant, le service que propose beta.gouv.fr, c'est d'exfiltrer cet agent public de son administration et en un temps très court, pouvoir construire un produit qui rencontre cet irritant et améliore le service auprès d'un usager. Et donc après, il y a toute une méthodologie qui est mise en place par beta.gouv.fr pour mettre en place un produit rapidement, pour faire des tests utilisateurs et pour déployer un certain marché, mais ce n'est pas vraiment le terme puisqu'on est dans le service public, mais pour trouver de plus en plus d'utilisateurs et à partir de leur retour, améliorer ce produit et faire en sorte qu'un service public numérique devienne le service public amélioré.
À ce propos, la méthodologie est ouverte et donc toutes les administrations ont aussi la possibilité de la consulter, de s'y former. Maintenant, effectivement, le terme start-up d'État peut prêter à confusion. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne le nommerait peut-être pas exactement de la même manière, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment la volonté d'aller résoudre un irritant et d'avoir des méthodologies un peu modernes pour résoudre un problème concret.
Et voilà, et se dire qu'on évite de faire des cahiers des charges très longs, très coûteux, qui finalement font aboutir à une solution qui n'est pas adaptée aux utilisateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye d'interpeller aussi l'administration autour de ces termes-là, puisqu'on voit aussi dans les administrations qu'on accompagne qu'il y a beaucoup de croyances sur ce que veut dire être entrepreneur, créer une start-up. Et du coup, nous, on permet de donner des clés à ces administrations-là pour développer des nouvelles méthodes.
En quelque sorte, c'est la mise en œuvre de développement agile, finalement.
Il y a en effet une grande philosophie autour de l'agilité au sein de l'incubateur, mais il y a d'autres philosophies qui complètent en effet cette méthodologie.
Ok, donc après avoir parlé de ces irritants, c'est un mot que j'aime beaucoup, on ne va pas faire une pause musicale, alors on va écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lacey et on se retrouve juste après. We'll be right back. Excusez-moi, je viens de louper le retour. C'est les joies du direct. Donc, nous venons d'écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lacey. Donc, c'est une musique qui est disponible en licence CC by SA et vous retrouvez la référence évidemment sur l'April. Donc, vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc 93.1 en Ile-de-France. Et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc juste avant la pause, nous parlions donc de la DINSIC et d'Etalab, donc avec Laurent Joubert, Mathilde Debras et mon collègue Étienne Gonu. Donc on a eu une présentation générale. Donc maintenant on va essayer de parler un peu plus en détail de la place du logiciel libre dans la stratégie de la DINSIC et d'Etalab, à travers différents sujets, politique de contribution, on parlera aussi d'entrepreneurs d'intérêt général, quelle est la place du logiciel libre, les Blue Hats, le projet Blue Hats, on nous expliquera ce que c'est que le projet Blue Hats. Donc Laurent, par quoi souhaites-tu commencer, Laurent Joubert, sur cette place du logiciel libre? Est-ce que par exemple, alors j'ai proposé par une question plus directe, l'April, nous défendons une politique volontariste en faveur du logiciel libre, qui est évidemment celle de la priorité au logiciel libre. Alors est-ce qu'au niveau de la DINSIC et Etalab, est-ce que c'est la priorité, est-ce que c'est une autre stratégie qui est mise en œuvre?
Alors pour répondre directement à cette question, aujourd'hui, notamment dans la loi République numérique de 2016, il y a effectivement un encouragement au logiciel libre et au standard ouvert qui est proposé. Il y a eu beaucoup de débats justement sur la position. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que côté DINSIC, on met vraiment en avant la valeur d'usage et on ne souhaite pas être dogmatique sur cette partie-là. Ce qui compte avant tout, c'est la valeur d'usage pour le citoyen, pour l'usager et être sûr que ça réponde aux différents besoins. Donc là, en fonction des différents sujets, on peut être amené à prendre différents choix. Donc, ce qui est intéressant, on ne veut pas être dogmatique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on souhaite quand même que le libre soit systématiquement évalué, en tout cas. Pourquoi ? Parce que, d'une manière générale, le libre a quand même beaucoup de caractéristiques intrinsèques qui collent bien au service public.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu me parles de valeur d'usage, etc. Mais j'aurais tendance à te dire que le logiciel libre, c'est ce qui cadre vraiment avec les valeurs d'usage pour les personnes.
Oui. Donc on retrouve un petit peu ces caractéristiques intrinsèques de transparence, la possibilité de le modifier, la possibilité de l'étudier. Donc ça, c'est important. Et par rapport aussi aux questions qu'on a pu se poser sur la première partie de l'émission sur les transcriptions, avoir cette capacité de redevabilité des administrations vis-à-vis des citoyens et de la transparence, eh bien ça passe par le code source. Et donc c'est vrai que cette capacité-là est importante. Et puis si on remonte un petit peu même en théorie sur, je dirais, les principes d'un service public, ne serait-ce qu'en termes de continuité, eh bien, le logiciel libre, il apporte des garanties. On n'est pas lié à un éditeur particulier aussi. Donc ne serait-ce que pour garantir un service public numérique, s'appuyer sur un logiciel libre, ça permet une certaine indépendance, une certaine pérennité, qui sont autant d'attraits et d'atouts pour délivrer un service public. Donc voilà, on est sur une approche non dogmatique, on encourage le logiciel libre et les standards ouverts. Maintenant, effectivement, ce n'est pas exclusif et il n'y a pas une priorité forte ou marquée au logiciel libre.
D'accord, donc il n'y a pas de priorité, mais effectivement, il y a une démarche qui est quand même plutôt positive. Alors comment concrètement elle se met en œuvre? Quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui à la DINSIC ou à la mission Etalab dans ce cadre?
Alors là, si on fait un petit historique quand même, sans remonter tu peux en 98, etc. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que de fait de ces caractéristiques-là, le libre, ça fait quand même longtemps que le secteur public s'y intéresse. Et particulièrement en France. Là, quelque part, c'est un point qui est positif
aussi.
La France
a été précurseur.
On est précurseur au niveau international. Concrètement parlant, ça s'est traduit, je pense, par la création de marchés de support logiciel libre assez tôt dans les années 2000. Je pense qu'un peu l'élément fondateur, ça a été la circulaire Hérault de 2012, qui a quand même été une circulaire signée par un Premier ministre où on évoque justement le logiciel libre, on constitue la création de communautés internes à l'État sur la bureautique, les développements, l'environnement de travail. Donc ça, c'est déjà des premiers aspects concrets.
La circulaire Hérault, c'est la circulaire intitulée sur le bon usage du logiciel libre dans les administrations, donc qui était effectivement signée par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Hérault, et qui était issue des travaux, alors à l'époque ça devait s'appeler la DISIC, qui était à l'époque dirigée par Jérôme Filippini. Et effectivement, il n'y avait pas de priorité au logiciel libre dans cette circulaire, mais c'était finalement des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et c'est vrai que nous, on avait salué cette circulaire à l'époque comme vraiment un point très important, une marque très importante dans la prise en compte du logiciel libre et des bonnes pratiques logiciels libres dans les administrations.
L'April en avait même fait une traduction anglaise officieuse.
Exactement. Alors, je ne m'en souvenais pas. Merci, Laurent. Effectivement, oui.
Donc ça, c'est un point important. Mais ce qu'il faut retenir aussi de cette circulaire-là, c'est qu'elle était majoritairement, pas que, mais majoritairement axée sur la consommation de logiciels libres au sein de l'administration. Donc on était vraiment dans une logique d'utilisation de logiciels libres pour rendre les services publics. Peut-être que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'opérer un changement culturel et on essaye de plus en plus d'aller vers une logique de contribution.
D'accord. Alors, donc ça, c'est la politique de contribution au logiciel libre. Effectivement, c'est dans l'informatique, effectivement, on peut consommer de l'informatique, mais on peut aussi produire de l'informatique. Alors c'est vrai qu'historiquement, dans l'administration, de nombreux logiciels sont produits aussi par les prestataires, donc je pense qu'on en parlera. Donc aujourd'hui, il y a une politique de contribution formelle faveur du logiciel libre qui est mise en place donc, par la DINSIC avec un document dont la première version, si je me souviens bien, mais tu me corrigeras, ça date de l'an dernier, 2018.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Et donc cette politique de contribution, en quelques mots, alors je précise qu'on on reconsacrera une seconde émission à ce sujet-là, donc plus en détail, notamment avec Bastien Guéry, qui est référent logiciel libre au sein de la mission Etalab, courant février, je pense. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette politique de contribution? Quels sont ses objectifs?
Alors, les objectifs, c'est vraiment, peut-être avant d'aller sur les objectifs de cette politique en tant que telle, les objectifs du logiciel libre pour nous, c'est aussi de gagner en maîtrise de notre système d'information. Donc ça, c'est quand même un point important. Aussi, en termes d'efficience, sur tout ce qui est mutualisation de code, donc être capable d'aller plus en mutualisation des différents projets et bénéficier des réutilisabilités du logiciel libre. Je pense qu'il y a aussi un objectif en termes de recrutement ou de ressources humaines, parce que quelque part, le logiciel libre, c'est aussi un moyen de valoriser et les compétences des développeurs internes et donc de montrer en fait la valeur que peut avoir un agent à travailler sur ce type de logiciel. Donc on a beaucoup de cibles qui sont identifiées sur cette partie logiciel libre et dont une qui est un peu la quintessence du tout, mais qui est quand même favoriser la démocratie, être capable, enfin on va reprendre le code ESLO, mais être capable par ces logiciels, en reprenant des exemples comme APB, donc tout ce qui est admission post-bac, où on a vu en fait que de plus en plus, le code pouvait influer sur des décisions qui concernent la vie des gens. Donc ça, c'est aussi le sens de l'intérêt général.
Code ISLO, pour rappeler, c'est le titre d'un livre de Laurence Lessig. C'est un des livres préférés d'Étienne Gonu, donc tu lui fais plaisir. Donc oui, et alors ça, c'est parti d'INSIC. On va revenir évidemment sur la DINSIC. Alors, côté Etalab, tout à l'heure, Mathilde, tu as parlé du programme d'entrepreneurs d'intérêt général. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est, quels sont les objectifs et quelle est la place évidemment du logiciel libre dans ce programme? Est-ce qu'il est petit, grand?
Absolument. Donc, le programme Entrepreneurs d'intérêt général, c'est un programme qu'on a créé il y a maintenant 2 ans. Et l'objectif, c'est de pouvoir attirer des personnes qui savent coder, qui savent faire du design, qui savent analyser des données, les exploiter et les restituer au sein de l'administration afin d'améliorer son fonctionnement. Donc on est sur un programme d'attractivité de ressources humaines parce qu'aujourd'hui, un des plus grands problèmes de l'administration, c'est quand il s'agit de recruter des personnes qui pourraient avoir vocation à travailler dans le privé. Il est très difficile de les attirer avec des fiches de poste et des salaires. Et donc, le programme Entrepreneur d'intérêt général essaye de répondre un peu à cette problématique. L'idée, c'est qu'on sélectionne au sein de plusieurs ministères des projets qui ont trait à l'exploitation des données, à l'amélioration de services. Et qu'ensuite, on recrute tous les ans une promotion de 30 entrepreneurs qui ne pensaient peut-être pas un jour travailler dans le service public et consacrent 10 mois pour résoudre des défis au sein des ministères dont les projets ont été sélectionnés. Et en fait, une des valeurs du programme, c'est l'ouverture. Donc ça a beaucoup de sens, l'ouverture à des nouveaux talents, mais l'ouverture des codes sources. Et donc en fait, l'obligation des ministères qui font partie de ce programme, c'est que toutes les ressources qui sont produites sont en logiciel libre.
Donc c'est une obligation donc du c'est programme une obligation. D'entrepreneur d'intérêt
Exactement.
Général.
D'accord. Et donc ça en fait une force assez importante, puisque depuis la création du programme, on a un dépôt, en l'occurrence sur GitHub, mea culpa, où on a l'ensemble des codes qui sont développés par les entrepreneurs d'intérêt général, et qui d'ailleurs sont assez efficaces et assez puissants, puisque d'une promotion d'entrepreneurs d'intérêt général à l'autre, des scripts et des librairies qui sont créés par les entrepreneurs d'intérêt général sont réutilisés. Donc on crée aussi des potentiels de mutualiser des outils. Typiquement, quand on parle d'analyse des données, de data science, aujourd'hui on a besoin d'avoir des méthodes pour faire des graphes qui font des relations entre les données. On a besoin d'avoir des méthodologies pour pseudonymiser des données ou pour indexer des données. Aujourd'hui, ce qui est produit par ces entrepreneurs d'intérêt général peut servir d'un usage à l'autre dans l'administration. Et donc, pourquoi je raconte ça ? C'est parce que ces exemples-là démontrent aussi la force, on va dire, même financière du logiciel libre dans l'administration. C'est qu'on peut éviter de construire deux fois les mêmes outils lorsqu'il y en a un qui a été créé en très peu de temps par une personne qui était volontaire pour rejoindre le service public. Donc voilà, donc en résumé, dans le programme Entrepreneur d'intérêt général, le logiciel libre, ça fait partie c'est un pilier. Et peut-être plus largement au sein d'EtaLab, c'est la petite insiste que je voulais faire pour continuer les questions. Ce qui est assez fort, c'est qu'il y a quand même une culture du logiciel libre qui est très ancrée, puisque la plupart des membres d'EtaLab sont plutôt libristes, même s'il y a des débats entre nous, donc ça c'est super intéressant. Et depuis la loi pour une république numérique, Laurent l'a rappelé, l'ouverture des codes sources fait partie des obligations au titre de cette loi. Et du coup, depuis, on entreprend pas mal de travaux avec des administrations qui souhaitent volontairement ouvrir des codes sources qui prennent des décisions individuelles. Donc, par exemple, Laurent a évoqué admission post-bac. On a entrepris récemment l'ouverture du code source de la taxe d'habitation qui permet en plus d'expliciter la façon dont celle-ci est calculée. Donc vous allez me dire qu'elle va bientôt être supprimée, elle ne va pas être totalement supprimée. Et par ailleurs, ça permet aussi de comprendre en fait, les tenants, les aboutissants du calcul de cette taxe.
Alors, c'est excellent parce que ça me fait venir plein de questions. Donc, je vais toutes les envoyer à la fois et ça va vous concerner tous les deux. Alors déjà, sur application de post-bac, effectivement, c'est... On va rappeler qu'on a des progrès aujourd'hui parce que tu le dis, donc tu as cité une plateforme d'hébergement de code. Donc aujourd'hui, l'État met directement en ligne sur une plateforme d'hébergement de code son code. Et en 2016, je rappelle que la première version de l'APB, application de post-bac, avait été envoyée de version imprimée. Donc 2 ans plus tard, il y a quelques progrès. Donc j'ai plusieurs questions. Alors une question qui est en lien avec les contrats. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que donc, les entrepreneurs d'intérêt général, alors entendons-nous bien, dans le terme entrepreneur, c'est un terme neutre qui intègre toutes les personnes, quel que soit leur genre. C'est des CD, donc c'est 10 mois, c'est des CDD, donc j'ai plusieurs questions. Est-ce que ces personnes ont vocation après à rester dans l'administration ? Une autre question, c'est pourquoi faire le choix de recruter des gens compétents en CDD très courts plutôt que sur des contrats pérennes? Parce que finalement, les besoins en informatique au niveau de l'État ne vont pas diminuer, mais au contraire, vont augmenter. Tu as cité donc GitHub, qui est une plateforme d'hébergement de code qui appartient aujourd'hui à Microsoft. Est-ce que dans les projets de l'État, donc c'est une question aussi peut-être pour Laurent, est-ce qu'on va avoir un code.gouv.fr, c'est-à-dire une plateforme pour que l'État héberge ses propres codes? Donc voilà, quelques questions pour vous deux qui me viennent à l'esprit après cette intervention.
Je commence par les deux premières questions. Donc les entrepreneurs d'intérêt général, est-ce qu'ils ont vocation à rester dans l'administration? Alors, en fait, quand on a créé le programme, on s'était pas trop posé cette question-là, puisqu'on était vraiment en expérimentation également sur de nouvelles manières de recruter. Il s'avère que la première promotion, elle comptait un peu moins de 15 entrepreneurs. Et sur ces 15 personnes, il y en a 3 qui ont rejoint l'administration. Et plusieurs qui ont continué à interagir de près ou de loin avec l'administration, en tant que freelance ou au sein d'associations. Donc il y a une certaine continuité. Cette année, la deuxième promotion s'est arrêtée il y a quelques semaines. Il y en a certains qui continuent. Et donc l'enjeu, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie force de ce programme pour créer de nouveaux parcours au sein de l'administration. Il faut encore l'outiller parce que, et ça fait le lien avec votre deuxième question, aujourd'hui, on fait des contrats de 10 mois pour des raisons très simple, c'est que ça nous permet de recruter rapidement et sans passer par des contrôles budgétaires que je n'expliquerai pas parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller vite et de passer un peu outre les règles classiques. Donc on est vraiment dans une zone démilitarisée du recrutement dans l'État. Et c'est ce qui est aussi très, très, très agréable parce que du coup, comme c'est présenté un peu comme un concours, on ne publie pas des fiches de poste incompréhensibles. On publie une mission.
Un objectif, un projet,
avec on présente l'équipe, etc. Donc on accélère tout ça. Donc voilà, ça dure 10 mois pour ces raisons un petit peu de démilitarisation. Est-ce que ça a vocation à être pérenne? On l'espère, parce que du coup, je pense qu'on expérimente depuis 2 ans, bientôt 3, un nouveau modèle de recrutement. Après, il faut que ça continue à s'éprouver. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ministères qui font appel à nous plutôt un peu en continu pour nous demander des conseils sur la manière de recruter un développeur, un ou une développeur, un designer, des data scientists, etc. Donc on voit bien qu'on a trouvé aussi un certain modèle de recrutement qui peut être intéressant au-delà même du programme. Donc je laisse la parole à Laurent sur code.gouv.
Laurent Joubert.
Pour compléter aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est une première étape. Donc ça permet d'avoir quelqu'un pendant 10 mois et de proposer à un indépendant qui n'a pas forcément, je dirais, des revenus stables dans le temps, d'avoir là, pendant 10 mois, une fiche de paye et de ensuite, grâce à ça, pouvoir être recruté dans l'administration. Parce que donc il y a 2 moyens de rejoindre l'administration, c'est soit sur concours, soit par contrat. Et par contrat, si, en tant qu'indépendant, s'il y a des variations importantes d'un mois sur l'autre, c'est assez difficile pour l'administration d'être capable d'établir un contrat. Donc là, notamment pour des profils un peu plus slasher, donc qui ont l'habitude de passer d'une activité à une autre régulièrement.
Je ne connaissais pas ce terme.
Ça permet de recruter des profils un peu atypiques.
C'est quand les gens se présentent en disant « je suis on va dire, développeur slash chef de projet ». Slasher.
Merci
Mathilde.
C'est les
gens qui font plusieurs activités. D'accord. C'est la plus activité, mais dans le temps.
D'accord, ok. Et donc, ma question sur...
Sur GitHub.
Voilà, ou plutôt, pour être plus positif, sur un futur code, parce qu'il y a un data.gouv.fr, comme l'a dit Mathilde dans l'introduction. Est-ce qu'il y aura bientôt un code.gouv.fr? Et je complète ma question. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la volumétrie des projets qui sont mis sur GitHub ou Framagit, parce que je crois que vous utilisez aussi Framagit, par l'administration? Est-ce qu'on sait déjà combien il y en a, en fait?
Oui, alors, il y a un recensement qui est en cours. En fait, le premier point, peut-être, donc il y a cette politique de contribution qui est un document important parce que c'est un document officiel, c'est un document qui fait autorité sur une doctrine de publication et de contribution à des projets libres existants pour tous les informaticiens de l'État. Donc qu'ils soient agents titulaires ou contractuels. Donc ça déjà c'est un point important et qui cadre aussi la capacité des prestataires, donc des sociétés de services qui travaillent pour l'État, et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à des logiciels libres. Donc ce document, il fait autorité. C'était important de le publier parce qu'il y avait beaucoup de verrous, peut-être psychologiques ou autres, mais tant que les choses ne sont pas explicitement autorisées dans l'administration, ça peut créer une certaine confusion, ça, et donc la politique de contribution y répond.
Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'une des forces, enfin l'un des points très positifs de la circulaire Hérault de 2012, c'est d'avoir donné une légitimité et une sorte de protection aux agents de l'État qui faisaient du logiciel libre, parce que tout d'un coup, ça devenait un document signé par le Premier ministre de l'époque.
Tout à fait. Donc là, un des objectifs de la politique de contribution, c'est aussi de valoriser et de reconnaître l'agent qui contribue. Pour montrer qu'effectivement, alors évidemment, tant que ça rentre dans le cadre de ses missions, mais que c'est quelque chose d'intéressant, et le fait de coder en mode ouvert, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose sur lequel les autres agents vont pouvoir capitaliser. Donc il y a toutes ces pratiques-là qui sont insérées. Il y a deux parties importantes dans la politique de contribution, des principes un peu génériques et vraiment des modalités pratiques qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir facilement contribuer ou publier un nouveau code source en logiciel libre.
Donc je suppose qu'il y a des conseils sur les licences à choisir, ou en tout cas les choses à vérifier. Si par exemple on contribue à un code qui est déjà sur une licence, je suppose qu'il y a les relations aussi avec les prestataires, parce que évidemment aujourd'hui beaucoup de codes dans l'administration est développé par les prestataires, donc obtenir effectivement un transfert de droit pour la mise sous licence libre, des choses qui n'étaient peut-être pas pensées dès le départ dans les années avant.
Alors là, la vocation de cette politique de contribution est vraiment de s'adresser aux développeurs.
Donc, de l'administration.
De l'administration ou de la société de service qui travaille sur un projet de l'administration. Donc c'est très pragmatique là-dessus. Elle nécessite un certain nombre de prérequis, comme la gestion de clauses contractuelles pour vérifier qu'effectivement la possibilité de publier en logiciel libre est inclue dans le contrat. Mais en tout cas, voilà, c'est un document qui officialise les bonnes pratiques sur la contribution d'un développeur.
Sur les licences. Est disponible à quel endroit ?
Le document, il est sur numérique.gouv.fr.
D'accord, donc sur numérique.gouv.fr. Et si je ne me suis pas trompé, j'ai mis la référence sur la page de l'April. Donc vous pouvez retrouver ce document qui doit faire une quinzaine de pages, si je me souviens bien, ou 20 pages.
Alors c'est un document web, en plus.
C'est un document web, j'ai une version PDF. Donc en tout cas, sur numérique.gouv.fr.
Tout à fait. Et qu'il est possible d'ailleurs d'amender, de corriger. Si jamais il y a des coquilles, vous pouvez contribuer.
Et à l'époque, il y avait un appel à contribution de façon ouverte pour effectivement, avant la rédaction finale.
Tout à fait. Sur la partie licence, il y a une certaine contrainte parce que d'un point de vue autorité, il y a un décret qui autorise en fait pour la publication de nouveaux codes sources un certain nombre de licences. Là, l'objectif, c'était pas d'être dans une logique de prolifération de licences libres. Donc il y a deux familles de licences qui sont autorisées, les familles permissives et les licences avec obligation de réciprocité. On va pas aller dans le détail technique.
On rentrera dans ce détail technique lors d'une prochaine émission avec notamment Bastien Guéry, référent logiciel libre à Etalab. Effectivement, c'est un décret qui fait suite à la loi pour la République numérique et qui précise donc les types de licences autorisées et dans ces types de licences, les noms des licences qui ont été listées.
Donc ça, c'est important. Donc, il y a le volet autorité qui est hors politique de contribution. La politique de contribution donne quelques orientations sur le choix de la licence. Si jamais, justement, il faut plutôt s'orienter vers une licence avec obligation de réciprocité ou plutôt sur une licence permissive. Sur la partie de l'entrepôt des codes sources, des forges, de l'emplacement où on peut collaborer, le point qui a été retenu, c'est que du moment qu'on est sur... du logiciel libre, ce qui est important, c'est d'être capable d'interagir avec d'autres développeurs. Donc, en fait, le mot d'ordre qu'on a retenu, avec pas mal de discussions qui ont été menées notamment à l'international avec d'autres États aussi, parce que c'est une politique de contribution qui n'a pas été faite uniquement du côté franco-français, c'est de pouvoir en fait choisir n'importe quelle plateforme. L'idée, c'est ça, où en fait, on va trouver les contributeurs qui peuvent venir sur le projet. Donc GitHub est effectivement une des plateformes de référence sur le sujet, mais en fait, il n'y a pas de restrictions spécifiques. Si vous voulez être sur la forge Framagit, OW2, GitLab, FSFE, que sais-je, en fait, ce qui est important, c'est on va mettre en avant les capacités sociales de trouver les contributeurs. Le code est ouvert, donc en termes de réversibilité, il y a quand même la possibilité de le reprendre, de travailler, de le passer sur une autre instance. Et peut-être un partenariat qui est intéressant de souligner, c'est le partenariat qui a été fait avec Software Heritage, qui est en fait la bibliothèque d'Alexandrie des codes sources, et pour lesquels justement ils vont archiver les dépôts de codes publiés par l'administration, et ça a vocation à être centralisé et justement à donner un petit peu cette réversibilité pour garantir qu'on ne perdra jamais les codes ou l'historique de ces codes, parce que Software Heritage garde l'intégralité de l'historique aussi. Donc voilà, donc GitHub, pas GitHub, chacun est libre de sa décision. Nous, on est plutôt sur une logique. L'avantage de GitHub, c'est l'avantage de Git, pardon, c'est d'être décentralisé. Donc il y a cette capacité-là, on en profite, on la met en avant et on laisse les chefs de projet choisir l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise. La seule contrainte qu'on pose, c'est d'être sur des comptes d'organisation. On ne veut pas être sur des comptes personnels qui ont vocation un petit peu à disparaître ou autre. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre une certaine gouvernance sur la création de comptes d'organisation.
D'accord. Merci pour la réponse. L'un des défis, donc, c'est la création d'une communauté de contributeurs. Et je pense qu'on va en reparler après la pause musicale. Mais juste avant la pause, donc, je vais préciser que Software Heritage, c'est un projet notamment porté par l'INRIA et Roberto Di Cosmo. Et nous aurons Roberto Di Cosmo dans Libre à vous. Alors, je ne sais pas quand pour le moment, mais en tout cas, nous l'avons convié à venir pour effectivement présenter ce projet absolument magnifique. Donc, nous allons faire une pause musicale avant de passer donc, de revenir sur le sujet et de parler notamment de la contribution. Donc, nous allons écouter La Traversée de Max Livio avec Icotuff by Skunky Skunky. Bon, je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement. Et on se retrouve en tout cas juste après ça. Eh bien, vous êtes de retour sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc, nous avons à écouter la traversée de Max Livio, donc, qui est disponible en licence CC BY SA. La référence est évidemment sur le site de l'April, donc april.org. Et nous allons continuer notre sujet donc avec Mathilde Bras, Étienne Gonu et Laurent Joubert donc, sur la DSI de l'État, entre guillemets, la direction informatique de l'État quelque part. Donc nous parlions juste avant la pause musicale de l'importance du défi plutôt de créer des contributeurs, des contributeuses. C'est-à-dire c'est, le logiciel libre, ce n'est pas simplement du code, c'est aussi des gens qui y contribuent. Donc il y a un projet au niveau de, ou une initiative, je ne sais pas, tu vas me dire peut-être, Laurent, qui a été lancé récemment, donc, qui s'appelle le Blue Hats, donc Hackers d'intérêt général. Alors qu'est-ce que c'est que cette initiative, Laurent Joubert?
Tout à fait. Donc c'est le référent logiciel libre Bastien Guéry de l'État qui a eu l'idée de Blue Hats l'objectif c'est de fédérer toutes les personnes qui travaillent sur des projets d'intérêt général, des projets libres d'intérêt général. Le point qui est important c'est que donc, ça ne se limite pas aux développeurs, vous soyez utilisateur, designer, data scientist ou autre. L'objectif, c'est de pouvoir permettre la création d'une communauté de gens qui travaillent sur des projets utilisés par l'administration ou qui pourraient être utilisés par l'administration et de favoriser aussi ces liens entre la sphère civile et la société civile et l'administration. Donc, l'objectif, c'était un petit peu d'ouvrir les personnes qui travaillaient sur ces projets, leur permettre d'être reconnues à l'extérieur et d'attirer aussi des gens qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de travailler à l'intérêt général et en fait d'avoir un impact concret sur des projets pour que ce soit directement utilisé par l'administration. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de la création de cette communauté.
D'accord, donc c'est une création récente, quelques semaines, je dirais.
Alors c'est un test.
Ça
a été évoqué lors de la dernière émission et c'était juste avant le Paris Open Source Summit. Donc Caroline Corbal en avait parlé.
Oui.
Le point qui est important, c'est effectivement, on reprend un petit peu une culture hacker avec le côté Blue Hat. Donc l'objectif n'était pas de faire de l'anglais, mais donc les chapeaux bleus pour justement montrer que c'est quelque chose que tout le monde peut s'accaparer ou autre, mais donc il y a ce côté hacker, c'est-à-dire ce côté je vais essayer de modifier et d'utiliser les règles existantes pour obtenir un impact direct au sein de l'administration. C'est en expérimentation. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'en faire un mouvement ou quoi que ce soit, mais si des gens peuvent venir avec n'importe quel chapeau bleu au sein d'un événement public pour dire ben, voilà, en fait, moi, je suis mainteneur, je suis à l'origine d'un projet d'intérêt général et je souhaite pouvoir en discuter avec d'autres. Ça me permet d'être identifié, ça me permet de discuter avec d'autres. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là ont tous une fibre un peu spéciale de vouloir travailler à l'intérêt général. Et donc, créer cette communauté peut être vraiment bénéfique pour l'administration et la forcer un petit peu à s'ouvrir et à découvrir ce qui se passe en dehors des murs de l'administration centrale.
D'accord. Alors le terme hacker, souvent, on croit que c'est des personnes très techniques, alors qu'en fait, pas du tout. Donc Mathilde Bras, est-ce que cette initiative Blue Hat, ce programme entrepreneur d'intérêt général, c'est réservé justement aux gens, aux personnes ayant des compétences techniques fortes, ou au contraire, est-ce que tout le monde peut participer?
Alors justement, je pense que le programme Hacker d'intérêt général et Entrepreneur d'intérêt général, c'est justement pouvoir se faire rencontrer des mondes différents. Donc Laurent a dit la société civile et l'administration. Et au sein de l'administration, c'est en effet des personnes qui ont des compétences techniques sur le numérique et d'autres qui ont des compétences techniques sur l'administration. Et pour donner quelques exemples, au sein du programme Entrepreneur d'intérêt général, on a eu des histoires assez incroyables où des personnes qui avaient une spécialité de métier, donc en l'occurrence c'était les archives, se sont initiées aux méthodes agiles, au développement numérique collaboratif, etc. Et donc on voit bien que ces espaces, donc hackers d'intérêt général, entrepreneurs d'intérêt général, sont des espaces de médiation pour aussi faire monter en compétence à la fois l'administration sur le numérique et les personnes plus compétentes en informatique sur l'administration. Donc c'est assez intéressant. Il y a un autre exemple qui personnellement moi me touche beaucoup, c'est des anciens entrepreneurs d'intérêt général qui sont en train de monter une association sur la transparence des médias et qui sont en train de mettre en place une communauté. Alors c'est pareil, c'est très expérimental, mais une communauté de personnes qui veulent créer des outils open source à disposition...
Voire libre.
à disposition des journalistes, de chercheurs, de citoyens, pour décrypter, déchiffrer la façon dont les médias parlent de l'actualité, la façon dont l'actualité parle de la presse, etc., etc. Donc on voit bien que ces espaces-là, c'est des espaces de confiance, c'est des espaces de médiation, et c'est des espaces d'apprentissage qui paraissent quand même assez essentiels aujourd'hui pour aussi déconstruire certaines croyances et adresser aussi quelques irritants que peuvent rencontrer des personnes non geeks comme moi qui parfois commencent à s'énerver quand un logiciel libre n'est pas ergonomique. Et donc ça permet aussi de faire entrer des designers dans tout ça qui sont très importants pour aider la prise en main de certains outils.
Eh bien, excellent, tu parles de design, ça me fait penser qu'il y a une excellente émission que vous pouvez écouter sur Cause Commune, un podcast, donc c'est l'émission Pause Commune avec Manuel Dorn. Alors je me souviens pas, alors corrige-moi Olivier.
Alors c'est Geoffrey
Manuel. Ah, c'est Geoffrey Manuel, c'est Corben, excuse-moi, c'est le frère. Bon, alors je le refais, donc c'est avec Geoffrey Dorn.
Ouais, et c'est l'épisode 14 de Pause Commune.
Et donc c'est l'épisode 14 de Pause Commune. Le Pause Commune, donc c'est tous les mardis de 12h à 14h et j'avais écouté l'émission, Geoffrey vraiment est excellent et il fait du design. Bah écoutez, merci Mathilde et Laurent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette première émission ? Ou est-ce que ça vous paraît bien ? Non ?
En tout cas, merci de votre invitation. En tout cas.
Moi, ça me paraît très bien. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Vous voulez rester avec nous pour le sujet suivant. Donc, je rappelle, nous avions avec nous Mathilde Debras et, donc, de la mission Etalab et Laurent Joubert de la DINSIC. Nous aurons prochainement, alors je n'ai pas encore la date fixée, mais nous aurons donc le référent logiciel libre. Donc Bastien Guéry, dont il a été question plusieurs fois. Et je vais juste finir par... effectivement, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Laurent ou Mathilde a expliqué qu'il y avait des libristes présents, effectivement, à la DINSIC et à la mission Etalab. Et c'est vrai que, bon, bah, on ne va pas le cacher, avec Laurent, on se connaît depuis de longues années, avec Bastien Guéry aussi. Et je pense que c'est un point très positif de ces évolutions, c'est d'avoir des gens qui viennent des communautés, donc qui connaissent les communautés du libre et qui travaillent effectivement au sein de l'administration. Donc vraiment, c'est une évolution positive.